Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. La dernière montée des marches à Cannes, où le jury du 72e festival doit donner son verdict. Émission spéciale du Masque et la Plume sur France Inter jusqu'à 21h. Dernières rumeurs et dernières impressions dans un instant avec Corinne Pellissier. Un ADN non identifié sur le colis piégé de Lyon, où le suspect repéré sur les vidéos n'a pas encore été retrouvé. De nouvelles photos ont été diffusées par les enquêteurs. L'explosif était le même qu'aux attentats de Paris de novembre 2015. 13 personnes ont été blessées, dont une enfant de 10 ans. Deux d'entre elles sont toujours hospitalisées. Des gilets jaunes qui continuent à battre le pavé pour le 28e samedi de mobilisation à la veille des européennes. C'est à Amiens, la ville d'Emmanuel Macron, qu'ils ont été les plus nombreux, entre 1000 et 2000 manifestants, dans une ambiance relativement tendue. Dans ce journal également, l'UFC Que Choisir qui dénonce des malfaçons sur certains moteurs Renault, 400 000 véhicules concernés en France. Le tribunal maritime international qui demande à la Russie la libération immédiate des 24 marins ukrainiens qu'elle retient depuis 6 mois. Le champion de France de rugby Castres éliminé, Montpellier qualifié. On connaît maintenant les affiches des phases finales du top 14. Et puis les fondateurs du web déçus de ce qu'est devenu l'internet. C'est la vie connectée de Christine Siméon. Enfin le temps plus sec demain, sauf en Corse.
France Inter.
Et le rideau sur l'écran est tombé, enfin pas tout à fait, reste encore le film de clôture ce soir à Cannes, hors norme, de Nakache et Toledano, Vincent Cassel et Reda Kateb à l'affiche. Mais d'abord, place au palmarès, le jury va rendre son verdict tout au long de l'heure qui vient. Corinne Pellissier, cette montée des marches qui précède l'ultime cérémonie, c'est toujours une bonne indication, dit-on.
Exactement, montée des marches d'ailleurs à l'instant du jury d'Alejandro González Iñárritu qui a passé, comme le veut la tradition, la journée retranchée dans une villa sans téléphone portable pour attribuer les 7 prix qui seront remis ce soir, Palme d'Or, le Grand Prix, le prix de la mise en scène, du jury, du scénario, ainsi que 2 prix d'interprétation. Parmi les personnes aperçues déjà sur le tapis rouge, peut-être évidemment quelques indices. On a vu il y a quelques instants l'arrivée de la réalisatrice Mati Diop, Ella Souleymane aussi a foulé le tapis rouge, Kléber Mendonça Filho, les frères Dardenne, réalisateurs du film en compétition, le jeune Ahmed. Également Antonio Banderas, formidable dans Douleur et gloire de l'Espagnol Pedro Almodovar, dont le film a beaucoup plu ici à Cannes et qui a constitué jusqu'au dernier moment quasiment un très bon candidat à la Palme d'Or. Mais la sélection est relevée et ce soir, c'est semble-t-il le Sud-Coréen Bong Joon-ho qui tient la corde avec son film Parasite. Il est arrivé lui aussi dans la salle. Son film couche toutes les cases, mise en scène, interprétation, scénario. En plus, c'est un film qui nous parle de la Corée d'aujourd'hui. Il sera au palmarès, c'est sûr. C'est d'ailleurs un film qui a obtenu une très bonne note auprès des critiques étrangers. Chez les Français, Céline Sciamma, mais aussi Lajli ainsi que son équipe ont monté les marches tout à l'heure. Peut-être une belle surprise pour le réalisateur qui a reçu déjà ce midi le prix du jury citoyen pour son film sur les banlieues et les violences policières, Les Misérables. Il vient d'être rejoint d'ailleurs il y a quelques secondes par l'équipe du collectif Courtrage-Mais qu'il a cofondé. C'est sans doute un bon signe. Plus que quelques minutes de suspense, c'est Catherine Deneuve qui va remettre tout à l'heure la Palme d'Or.
Corinne Pellissier au pied des marches à Cannes pour tout savoir du palmarès de ce cru 2019. Dans un instant sur France Inter, émission spéciale du Masque et la Plume de Jérôme Garcin avec Eva Bétan jusqu'à 21h. À Lyon, un ADN a donc été retrouvé sur le colis piégé qui a fait 13 blessés il y a un peu plus de 24 heures maintenant. ADN non encore identifié qui peut ne pas être celui du suspect, un homme en Bermuda venu et reparti à vélo, dont les photos ont été diffusées par les enquêteurs. On sait aussi ce soir, Emmanuel Leclerc, que l'explosif utilisé en faible quantité est du TATP, le même qu'en novembre 2015 pour les attentats de Paris.
Oui, les experts de la police scientifique sont allés très vite la nuit dernière. Ils ont d'abord réussi à isoler un ADN sur un morceau du sac qui contenait l'engin explosif. Un extrait d'ADN qui, selon des sources proches du dossier, n'aurait pas encore parlé. Aucune identité ne serait donc sortie des fichiers des services antiterroristes et de la police judiciaire. Les enquêteurs ont également identifié assez rapidement des résidus de l'explosif utilisé. Et il s'agirait de TATP utilisé par le passé en France lors des attentats à Paris et en Belgique à Bruxelles. On sait enfin que le suspect toujours recherché ce soir a utilisé un mécanisme de déclenchement de sa bombe à distance. Le procureur Rémi Heitz a évoqué à la mi-journée plusieurs éléments, comme les restes d'un circuit imprimé. Les services antiterroristes de la police judiciaire devaient publier de nouvelles photos du suspect alors que les enquêteurs ont déjà recueilli une dizaine de témoignages sur le parcours emprunté hier par cet homme d'une trentaine d'années, dont les services de police craignent évidemment qu'il ne passe à nouveau à l'acte, d'où le renforcement de toutes les mesures de sécurité, en particulier demain, à proximité des bureaux de vote de l'agglomération lyonnaise.
Ce matin, le maire de Lyon, Gérard Collomb, s'est rendu au chevet des victimes, dont deux sont toujours hospitalisées, atteintes par des éclats de verre ou de métal. Une cellule médico-psychologique a été mise en place au gymnase Chanfray, rue Casimir Perier, pour les victimes et leurs proches. La ville de Lyon qui maintient ce soir la réception des basketteuses de l'ASVEL, sacrée championne de France jeudi soir. C'est leur premier titre, 2 ans après le rachat du club par Tony Parker. Les concerts d'Ed Sheeran au Groupama Stadium sont également maintenus. Quel impact aura eu cet attentat sur le scrutin des européennes, si impact il y a d'ailleurs? Réponse demain soir à la fermeture des bureaux de vote. Le ministre de l'Intérieur, on vient de le dire, a demandé au préfet un renforcement de la vigilance et de la sécurité des bureaux de vote, mais aussi de tous les lieux accueillant du public. Le scrutin s'est ouvert ce matin dans les Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, avant la Guyane, les Antilles et la Polynésie. En attendant donc demain l'Hexagone, 34 listes à départager pour envoyer à Strasbourg 79 eurodéputés français. Émission spéciale sur France Inter demain soir à cette même heure. 800 gilets jaunes dans les rues d'Amiens, 2000 selon les organisateurs. C'est dans la préfecture de la Somme que ce 28e acte du mouvement s'est joué pour l'essentiel. Puisqu'on ne peut pas prendre le palais de Macron, nous prendrons sa ville, pouvait-on lire depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Beaucoup de commerces s'étaient barricadés. Clémence Gourdon-Négrini, le centre-ville avait d'ailleurs été interdit aux manifestants qui sont donc allés ailleurs.
Oui, il y a environ 500 manifestants, la moitié de ce qu'on a pu voir en centre-ville à Amiens cet après-midi, qui est de retour au parc de la Haute-Oie, puisque dans la soirée, les réfractaires du 80, les gilets jaunes amiénois et picards, ont prévu des concerts, de nouvelles prises de parole, un repas avec barbecue, etc., etc. Et le retour au calme depuis une heure à peu près. Hein. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un effectif de police qui est nettement moins nombreux que tout à l'heure. Pour le bilan sur la journée, il y a eu une centaine d'interpellations selon la préfecture. Ce, après la casse dans le centre-ville, on rappelle que beaucoup de vitrines, surtout de banques et d'assurances, ont été brisées dans le centre-ville d'Amiens.
Clémence Gourdon-Négrini, à Paris, la préfecture a fait état de 64 interpellations. Le ministère a compté au total 12 500 manifestants dans toute la France, 35 000 selon les gilets jaunes, quoi qu'il en soit, la plus faible mobilisation des 28 samedis. Et pendant ce temps, ils étaient des milliers défilés pour la marche des fiertés à Poitiers, Le Mans, Caen, ou Grenoble, dans un contexte difficile cette année, une année noire, selon le dernier rapport d'SOS Homophobie, avec un nombre d'agressions en hausse de 66%. La première réunion nationale des urgentistes en grève cet après-midi à Paris, alors que le mouvement s'étend et qu'il touche aujourd'hui 65 services à travers le pays. Les urgentistes continuent à réclamer plus de moyens pour être plus humains et pour arrêter de bricoler au jour le jour, comme ils le disent eux-mêmes. Ils dénoncent une pénurie tant en personnel qu'en nombre de lits. Y a-t-il eu des malfaçons sur certains moteurs Renault? Malfaçons susceptibles de provoquer des pannes, voire de casser le moteur. Selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a levé le lièvre, 400 000 véhicules Renault, mais aussi Dacia, Nissan et quelques utilitaires Mercedes seraient concernés en France et en Europe. Alain Bazot, le président de l'UFC, s'explique au téléphone de Manuel Ruffez.
Ça entraîne une surconsommation d'huile, en fait, hein, qui va entraîner la dégradation des soupapes d'échappement et ça peut aboutir à la casse du moteur. C'est vrai que le vice, il est très important. On a déjà des consommateurs pour qui il faudrait verser 10 000 euros pour avoir une réparation. Donc c'est vraiment un gros souci pour beaucoup de consommateurs. Et le problème, c'est que visiblement, cette anomalie était connue de Renault, puisque on a eu entre les mains une note interne de Renault, de la direction qualité et satisfaction client. Et cette note qui a été diffusée en interne, Renault s'est bien gardé d'en donner une information aux consommateurs. On est au 21e siècle, c'est quand même étonnant qu'il y ait encore une gestion à l'ancienne, à la 20e siècle, des difficultés sur un produit avec des consommateurs.
L'UFC Que Choisir dit avoir adressé une mise en demeure aux quatre marques, les enjoignant de rappeler les véhicules concernés et bien sûr à leurs frais. À l'étranger, au Sénégal, c'est contre les agressions et violences faites aux femmes que manifestaient ce matin plusieurs centaines de personnes dans les rues de Dakar, en majorité des femmes, venues protester contre le laxisme d'une justice qu'elles jugent trop complaisante. La semaine dernière, au Sénégal, le meurtre d'une jeune fille précédé d'une tentative de viol avait particulièrement ému l'opinion. William Delesseux à Dakar.
Sur le visage d'Aïcha Dramé, un maquillage fait de faux sang et de cicatrices.
Nous avons le visage ensanglanté, justement pour témoigner de la violence qui sévit. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il ne faut pas attendre que ça nous arrive ou que ça arrive à un proche pour réagir.
À la tribune se succèdent ceux qui ont connu la jeune Binta Camara, devenue le symbole des féminicides au Sénégal. Mais aussi des personnalités et des députés. Derrière un sit-in, des femmes, des hommes comme le jeune Mohamed Keïta pour qui il fallait être là.
Donner l'exemple avant tout. C'est rare de voir des hommes assumer de dire que nous sommes féministes. Et nous le disons haut et fort, nous sommes féministes. Et aussi, il est important aussi de dire que l'égalité hommes et femmes est possible. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, au niveau des politiques, pour les faire comprendre ça.
Au Sénégal, le viol est considéré comme un simple délit, passible de 10 ans d'emprisonnement au maximum. Oumine Dour, une des organisatrices du rassemblement.
C'est pour ça que le premier jalon que nous posons est de nous baser et de nous appuyer sur les femmes parlementaires pour que ce viol soit criminalisé. On ne crie plus ras-le-bol, on dit ras-le-viol.
Un document a été remis aux parlementaires présents dans le but de modifier le code pénal. Dakar, William Delesseux, France Inter.
À propos des droits des femmes, l'interdiction de l'avortement, ça regarde l'humain, pas le religieux. Le pape François revient sur le sujet de l'avortement qu'il a déjà plusieurs fois condamné en répétant qu'éliminer une vie pour résoudre un problème revient à engager un tueur à gages. Pour le souverain pontife, il faut préférer à l'avortement thérapeutique la création de réseaux d'amour pour éviter aux familles la souffrance et la solitude. Pour la libération des marins ukrainiens retenus en Russie, on avait oublié la faire, mais voilà 6 mois maintenant que 24 militaires dont les bateaux avaient été arraisonnés au large de la Crimée ont été faits prisonniers par Moscou. L'intervention répétée des Occidentaux auprès de Vladimir Poutine n'y a rien changé. Ce matin, c'est le tribunal maritime international dont le siège est à Hambourg qui a sommé le Kremlin de procéder immédiatement à leur libération en invoquant un droit de la mer signé par 168 pays dont la Russie. Jean-Gilles Revoin à Moscou.
La Russie continuera à défendre ses positions, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères. En d'autres termes, Moscou ne reconnaissant pas la compétence du tribunal international dans cette affaire, il est peu probable que les autorités russes relâchent les 24 marins ukrainiens qu'elles détiennent et rendent à l'Ukraine les 3 navires militaires en sa possession depuis fin novembre. Ruslan Balbek, député de Crimée, résume la situation de la manière suivante. Soit l'Ukraine reconnaît la provocation délibérée dans le détroit de Kerch et présente des excuses, nous parlerons alors de la libération des marins et du retour des navires, avance le député, ou alors marins et bateaux ukrainiens resteront en notre possession, indépendamment de ce que peut décider la justice internationale. Le 25 novembre dernier, la marine russe avait arraisonné dans le détroit de Kerch des bâtiments militaires ukrainiens dont elle estimait le comportement dangereux au motif qu'ils avaient violé les eaux territoriales russes. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
On ne peut pas violer le droit international impunément, a simplement commenté le gouvernement ukrainien. Une nouvelle victime sur les pentes de l'Everest, un alpiniste britannique s'est tué ce matin en redescendant. Il est le 18e à trouver la mort dans l'Himalaya népalais cette saison, alors même que les conditions météo sont plutôt favorables. Une hécatombe que les spécialistes expliquent par l'affluence trop importante des candidats à l'ascension et donc les délais d'attente interminables qu'ils entraînent, qui provoquerait l'épuisement et l'affaiblissement des grimpeurs. En sport, une victoire des Bleus ES sur la Thaïlande à un peu moins de 2 semaines de la Coupe du Monde. 3-0. La plupart des titulaires avaient été laissés au repos. Le dernier match de préparation, ce sera vendredi prochain contre la Chine avant la Coupe du Monde et le premier adversaire officiel pour les Bleus le 7 juin, la Corée du Sud. Mais l'événement de l'après-midi en sport, c'était le dénouement du top 14. Tous les matchs se jouaient à 16h15. On connaît donc maintenant l'affiche des phases finales, Vincent Pellegrini. Et ce qu'on retient de cette ultime journée, c'est l'élimination du champion de France Castres et la qualification in extremis de Montpellier.
Et au bout du suspense, les Montpelliens sont imposés à Clermont 28-27, eux qui semblaient avoir perdu toute chance de qualification il y a 2 mois. Montpellier, première équipe à faire chuter les Clermontois sur leur pelouse et qui profite de la grosse contre-performance du Castres Olympique battu à domicile par Toulon, 25-16. Un an après leur titre de champion, les Castrais ne disputeront donc pas les phases finales. Montpellier jouera samedi prochain un match de barrage à Lyon, vainqueur à Grenoble 24-23. Le Racing 92 en revanche a assuré sans trembler sa qualification. Il s'est largement imposé 35-3 à Agen. Les Racingmen joueront leur match de barrage à domicile face à La Rochelle qui a surclassé Bordeaux-Bègles 81-12. Rappelons Yves que les deux premiers du classement, Toulouse et Clermont, étaient déjà directement qualifiés pour les demi-finales et Perpignan relégué en Pro D2. La finale de la Pro D2, c'est justement demain à 14h, Bayonne face à Brive.
Toujours très compliqué, hein, le top 14 et le rugby en général. Petit tour aux origines du web pour conclure ce journal. C'est ce que vous nous proposez cette semaine, Christine Siméon. Bonsoir.
Bonsoir Yves.
Retour au tout début des années 90 au CERN en Suisse où deux chercheurs ont développé le web, un réseau d'échange d'informations pour l'internet.
On connaît un peu Tim Berners-Lee, le papa du web, mais beaucoup moins Robert Caillot, son associé au CERN dans les années 90. Je vous conseille de lire le portrait passionnant qu'en dresse Quentin Jardon dans son livre, qui sort ces jours-ci, Alexandria. C'est avec l'utopie du partage du savoir par tous, l'utopie de la bibliothèque d'Alexandrie, que les deux hommes ont œuvré. Et ici, j'ai retrouvé dans cette vidéo un extrait de la dernière conférence donnée par Robert Caillot en 2013 au CERN. Dernière conférence, dernière phrase.
Voilà, alors je termine juste avec le t-shirt qu'on avait en 1990 où était imprimé dessus notre devise, c'est-à-dire « partageons notre savoir », ce qui était très idéaliste. Et auquel je crois toujours. Merci.
Si Tim Berners-Lee a conçu le système du web, Robert Caillot, lui, en a été l'évangéliste pour lui faire voir le jour et le défendre. C'est la position de Quentin Jardon.
Pour moi, c'est plutôt le cofondateur, parce que c'est vraiment lui qui a cherché du soutien, des fonds, qui a essayé de recruter notamment des étudiants, pour qu'il y ait suffisamment d'énergie autour de la toute petite équipe au CERN en Suisse qui travaillait sur ce mystérieux, cet obscur système informatique qui allait devenir le web et qui était supporté en fait par très peu de gens. Il y a vraiment très très peu de monde qui comprenait en quoi ça consistait et l'utilité que ça pouvait avoir et surtout l'idéal qu'il y avait derrière cette invention.
Alors, Tim Berners-Lee, on le connaît un peu, surtout depuis qu'il a dit qu'il n'aimait pas du tout ce que le web était devenu aujourd'hui. Mais Caillot, eh bien, s'est un peu retranché dans son Jura suisse, muré dans le silence.
Voilà, sa dernière conférence était en 2013, sa dernière interview en 2018 au journaliste belge Quentin Jardon, donc, qui a dû le pister d'ailleurs pendant des mois et des mois avant de le convaincre d'une rencontre.
Son utopie se noie tous les jours dans les flots des fake news, de la publicité et du big data. Quentin Jardon décrit très bien comment les Américains se sont emparés du web dans les années 93-94. C'était facile, les Européens n'avaient absolument pas compris l'intérêt de cette invention. Et aujourd'hui, Robert Caillot tombe dans les oubliettes. Il s'est retiré et il préfère s'occuper du sauvetage de la planète.
Je pense que Robert Caillot souffre quand même un petit peu du fait qu'il ait été écrasé, qu'il était aussi un peu la marionnette de différentes institutions. Et je pense qu'il en a souffert de parfois être érigé comme le co-inventeur et puis simplement comme un développeur qui a cru très tôt dans l'idée de son associé britannique. Vraiment, ce qui les réunit aujourd'hui tous les deux, c'est la désillusion. C'est ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Pour eux, ça a été vraiment perverti.
Le web, c'est la grande désillusion. Il reste quelques espaces d'espoir à défendre farouchement.
La vie connectée de Christine Siméon à retrouver bien sûr sur franceinter.fr avec l'intégralité de cet entretien avec Quentin Jardon. Et on vous conseille vivement donc la lecture de son livre Alexandria. Le temps.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un temps largement plus sec demain, sauf sur la Corse où l'arrivée de pluie marquée va donner une journée bien arrosée. Sur le continent, le golfe du Lion va se démarquer des autres régions en raison du ciel bien dégagé, dû à une tramontane très turbulente. Des Pyrénées au Massif central, des ondées éparses vont émailler la journée. Les averses seront plus marquées à l'est du Rhône et possiblement orageuses des Alpes du Sud au Var et à la Côte d'Azur. Dans le Grand Est, les éclaircies seront plus durables que sur la moitié ouest du pays, sous un ciel franchement plus gris près de la Manche, où le vent de sud-ouest sera sensible, avec parfois des intermèdes de plus faibles. Dans des températures sans grand changement, il fera 14 à 16 degrés en début de journée du sud-ouest à la Provence, 10 à 14 plus au nord. L'après-midi, 20 à 24 sont prévus de la Manche en allant vers le sud-ouest et Rhône-Alpes, et 25 degrés en moyenne sur l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône.